permettront une réaction à ce que vous venez d'entendre, vous qui êtes psychiatre, professeur, chercheur à l'Université de Montréal.
Je suis dans l'ensemble d'accord, mais au niveau scientifique, ça a quand même beaucoup progressé, puisque par exemple, les instituts canadiens de recherche en santé ont un institut qui est dédié spécialement à ces questions-là, et que tout chercheur, dans n'importe quel domaine actuellement, qui fait une demande de subvention, doit se poser la question pour savoir s'il a considéré deux possibles effets de genre et de possibles effets de sexe.
Mais on s'entend que ça fait 2 ans, 3 ans. C'est assez
récent
quand même.
L'Institut a été créé, je crois, il y a 3 ans.
C'est ça, oui.
Laurent Motron, en tout cas, bref, je trouve que le billet met très bien la table pour la discussion que nous allons avoir, puisque vous vous posez présentement, parmi les nombreuses questions que vous posez en tant que chercheur, il y en a quelques-unes en lien avec le genre. Vous vous posez, entre autres, la question suivante. Y a-t-il beaucoup plus de femmes autistes que ce qu'on en pense? Est-ce qu'on sait trompé jusqu'à maintenant en associant ce trouble du développement surtout aux hommes. C'est ce sur quoi vous travaillez, entre autres, je le répète, depuis quelques mois, grâce au projet L'autisme au féminin. Commençons par une mise en contexte, je dirais, historique. On ne fera pas toute l'histoire de la recherche scientifique en lien avec l'autisme parce qu'elle a plusieurs décennies, quoi, 70 ans à peu près.
Oui.
Mais quand même, pour bien comprendre la pensée d'aujourd'hui, il faut comprendre celle d'hier. Et mis à part les statistiques qui confirment qu'il y a plus de garçons autistes que de filles autistes, quelle était la croyance répandue chez des gens comme vous, et quel a été le point de bascule?
Il y a une quinzaine d'années, on disait dans les livres scolaires qu'il y avait à peu près 4 autistes hommes pour un autiste femme. Et puis, cette règle avait une sorte d'exception ou de bizarrerie, c'est que plus on augmentait le niveau d'intelligence, plus la proportion de femmes était élevée. Nous, dans notre base de données, qui était composée d'autistes à intelligence normale, on a été jusqu'à 11 hommes pour une femme. Et ça, c'est pas justement, comme disait la personne précédente, c'est pas un biais. C'est plutôt quelque chose qu'on constate et c'est un fil rouge qu'on va après chercher à suivre en se disant, ben ça c'est du solide. Si on fait un modèle de l'autisme, il faut qu'on parte de cette chose-là et qu'on l'intègre. Et ça, je vous dirais, tous les chercheurs sur la planète ont pensé ça jusqu'à il y a à peu près une quinzaine d'années. Et le point de bascule, ça a été pas vraiment une donnée, mais une réflexion. Ça a été l'idée que si on trouve plus d'autistes hommes que femmes, d'autant plus que les personnes sont intelligentes, ça peut peut-être être que plus les femmes sont intelligentes, plus elles présentent une forme d'autisme qui va éventuellement être moins visible. Parce qu'il ne faut pas aller trop vite dans ce raisonnement-là, dans le sens qu'il y a des autistes femmes, les 1 sur 4, celles qu'on trouvait il y a une vingtaine d'années, qui sont comme des hommes, sauf que c'est des femmes. Donc, qu'ils ont le même autisme. La question qu'on se pose depuis quelques années, c'est est-ce que ce qu'on appelle le ratio, le sexe ratio, la plus grande proportion de femmes que d'hommes, n'est pas en fait un artefact qui est lié à ce qu'on manquerait. Les femmes autistes qui ont une forme d'autisme qui ne ressemble pas à celle des hommes, tout simplement.
Mais on les manquerait pourquoi ?
On les manquerait parce que nos critères ont été établis à partir d'une cohorte essentiellement masculine, parce qu'elle était comme plus visible.
Et là, ça confirme ce qu'on entendait tout à l'heure.
Pas vraiment. Parce que la personne qui a fait ça, elle était de bonne foi, elle avait probablement accès.
J'en suis persuadée.
Je n'ai pas personnellement connu Canner, mais on peut reprocher ça à mon fils.
Mais attendez,
on va rater l'essentiel. Donc, ce gars-là, le gars qui a découvert l'autisme, il avait probablement accès au même nombre de petits garçons et de petites filles. S'il a détecté plus des garçons, c'est peut-être que les garçons entre eux ou se ressemblaient plus, donc vous aviez un effet forme sur fond, ces 11 gamins-là se ressemblent, et aussi qu'ils avaient des symptômes peut-être plus bruyants. Mais le fait d'avoir des symptômes plus bruyants vient peut-être de ce que, chez les femmes, c'est moins bruyant ou moins visible ou plus intérieur. Alors là, on arrive à une situation qui s'est déclenchée il y a à peu près une quinzaine d'années, où énormément de femmes, en général très lettrées, très intelligentes, avec des quotients intellectuels très très élevés, ont chacune fait des biographies un peu partout sur la planète pour dire qu'à la fois, elles se reconnaissaient de façon abstraite dans l'autisme, mais qu'il y avait quand même beaucoup de différences et que ce n'était pas tout à fait pareil. Si on avait 1, 2, 3... on n'en aurait pas fait grand cas. Sauf que il se produit une sorte de phénomène de ressemblance. C'est que toutes ces biographies de par le monde sont étrangement semblables.
Il y en a tant que ça ?
Énormément. Alors pour vous donner une idée, je vais passer maintenant à nos affaires. Nous, on a, à partir de l'initiative de 3 femmes autistes françaises qui m'ont dit, on en a marre, en France, on n'arrive pas à se faire diagnostiquer. Et c'était 3 femmes, disons, dont le caractère non standard était très visible pour un expert et même pour un non-expert. Et elles m'ont demandé, puisque vous êtes un chercheur, est-ce que vous ne pouvez pas vous servir du fait que vous êtes bien établi scientifiquement pour nous donner une espèce de caution scientifique et de faire qu'on existe ? Parce que nous, c'est vraiment le bazar. On va dans des cliniques spécialisées, puis on dit, vous êtes pas trop intelligente, vous êtes bien trop adaptée. Si c'est ça un autiste, moi je suis noir, etc. Enfin, toutes les choses qu'on
peut... On banalise un peu finalement leurs sentiments ou en tout cas...
On s'est mis à parler d'autisme invisible. Et là, on entre dans des choses qui sont assez, assez compliquées puis qui ont beaucoup, beaucoup d'enjeux éthiques et scientifiques. Bon, si on dit invisible, ça peut être la porte ouverte à toutes les impostures. Et c'est souvent ce que les gens d'en face, ceux qui ne sont pas d'accord avec cette idée d'autisme invisible, vont vous dire. Si vous avez quelqu'un qui va au tribunal en disant « Ah, bah oui, mais moi j'ai fait ça parce que j'étais autiste, donc ce n'est pas de ma faute », c'est la porte ouverte à toute espèce d'abus.
Ouais, donc, c'est pas nécessairement le cas de ces femmes.
Non, sûr que non. De ces et femmes je vous dirais que si je me suis engagé dans cette cause-là, c'est avant tout parce que j'y crois et que, à cause de mon expertise clinique, quand elles me racontent leur histoire, je suis vraiment convaincu, un, que toutes ces histoires se ressemblent énormément entre elles, et donc que c'est pas qu'elles se sont influencées mutuellement, c'est pas un effet de contagion, c'est que vraiment il y a comme un nouveau syndrome.
Donc ces femmes qui s'auto-diagnostiquent, qui se reconnaissent c'est dans ça. Le trouble du spectre autistique, vous les croyez ?
Alors je les crois par des... je crois personne sur parole, mais je pense qu'il y a quelque chose d'important à trouver là, et que je pense qu'il y en a une forte proportion qui disent vraiment ce qui se passe. Et le but de notre travail, donc on a fait nous un appel par le web, et grâce à ces femmes autistes qui s'étaient déjà réseautées par le web, et là on a une réponse absolument extraordinaire. On a actuellement 450 histoires, c'est sur toute la francophonie, France, Belgique, Luxembourg, Suisse et Québec, et sur ces histoires, on a eu comme à peu près 250 maintenant qui ont signé les formulaires d'éthique pour participer à la recherche, et donc on a un N considérable qui va nous permettre de creuser au niveau de leur histoire propre, de leur subjectivité vraiment, de ce qui fait qu'elles se ressentent différentes, et d'essayer de dépasser justement l'aspect subjectif pour attraper là-dedans quelque chose qui est un véritable trait commun. Et bien sûr,
est-ce que vous avez une idée de quel pourrait être ce trait commun ?
C'est effectivement l'autisme, mais abstrait. Autrement dit,
abstrait.
Je veux dire, c'est-à-dire que ce sont des gens qui, par exemple, quand ils vont décrire leur relation avec les autres personnes, vont décrire des choses qui ressemblent à ce qu'on voit faire un autiste très typique avec d'autres enfants. Sauf qu'elles, elles vont dire qu'elles vivent ça, mais ça ne va pas forcément se voir.
Donc elles le camouflent,
Ce
sont des femmes qui ont développé une sorte d'aptitude au camouflage.
Les femmes auraient une plus grande facilité que les hommes, ou un plus grand désir que les hommes, à correspondre aux attentes du groupe, mais est-ce que ça c'est pas idéologique ?
Voilà.
Et ça j'en suis absolument pas convaincu.
Ouais.
Mon idée en fait c'est que
elles ont développé des trucs pour fonctionner socialement.
Ça c'est ce qui se dit actuellement. Ça on veut le mettre à l'épreuve.
Okay.
Ce que je sais c'est qu'il existe un groupe impressionnant de femmes de très haut QI qui toutes ont le même vécu d'étrangeté, qui toutes s'identifient à l'autisme et c'est un pari que je fais, ce qu'elles disent est crédible, et actuellement la psychiatrie les manque, et notre travail c'est de trouver une espèce d'ancrage, éventuellement dans le biologique, mais pas seulement, l'ancrage aussi, ça peut être simplement dans la similitude de ces histoires, mais toutes ces personnes-là vont faire de l'imagerie, vont faire de la génétique, vont faire toutes ces choses-là, et mon pari c'est qu'on va trouver des différences biologiques qui vont en fait donner une sorte de dignité à cette différence-là.
Wow, d'où le projet donc Autisme au féminin, initié par la chaire que vous dirigez, donc vous êtes titulaire,
oui, je rappelle, Laurent Mottron. Avec une chercheure qui s'appelle Pauline Duré, qui
est l'école des hautes études en sciences sociales, qui est une école française, conjointement
et
avec
Fabienne
votre chaire,
Casalis,
la chaire de recherche sur le spectre autistique. Et donc tout ça va commencer très bientôt.
Oui, c'est déjà commencé.
Ben alors donc, quand vous aurez des résultats, vous reviendrez nous voir dans un an ou deux ou trois.
Tant que vous voulez. Je répondrai à madame à ce moment-là.
En espérant qu'on soit ici. Merci beaucoup, Laurent Mottron.